Selon Luc, le médecin Luc, disciple de Jésus, au chapitre 4, à partir du verset 14. Luc, chapitre 4, à partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. Nous arrêtons ici notre lecture. Permettez-moi de souligner que le but de nos réunions, ce n'est pas de vous parler d'une religion, de vous entretenir de traditions, de choses semblables, mais c'est de vous aider au travers du message de l'Évangile à fixer vos regards sur Jésus. Car quel que soit votre besoin, quel que soit votre problème, la réponse de Dieu, la solution de Dieu pour vous, c'est une personne, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Nous retiendrons pour ce soir cette parole que Jésus a prononcée alors qu'il lisait un passage du prophète Ésaïe. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Souffrir physiquement, c'est quelquefois bien pénible, mais souffrir moralement, c'est parfois plus pénible encore. Jésus guérit les corps malades, mais Jésus guérit aussi les cœurs brisés. Je me souviens avoir écouté une émission à Europe 1, un radio-magazine sur la dépression. Et voici ce que disait le journaliste Robert Namias. La dépression touche toutes les classes sociales sans exception. C'est une douleur épouvantable. C'est beaucoup plus difficile de souffrir moralement que de souffrir physiquement. Il est rare qu'un cancéreux se suicide, et l'on dit que c'est une des maladies les plus terribles sur le plan des souffrances, mais il n'est pas rare qu'une personne déprimée se suicide, puisque la quasi-totalité des suicides est en réalité le fait de gens qui sont déprimés. C'est Victor Hugo qui disait que le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Je crois que malheureusement, bon nombre de nos contemporains existent sans véritablement vivre. Quand on sait que nous, Français, nous sommes les champions du monde de la consommation des anxiolytiques, ça veut quand même dire quelque chose. Or, quel bonheur d'avoir son cœur en paix, de pouvoir dire, comme le roi David l'a écrit lui-même, « J'ai l'âme calme, tranquille », non pas vivre dans l'angoisse, dans la crainte, dans la peur, dans la dépression et que sais-je encore, mais vivre avec une âme calme et tranquille. Permettez-moi de vous raconter un fait qui s'est passé en Normandie. Une jeune femme a soigné sa voisine qui avait un cancer. Enfin, elle l'a soignée, elle lui a porté de l'aide dans les soins, jusqu'à ce que malheureusement, sa voisine décède. Quelques mois ont passé, et quelques temps plus tard, cette femme qui avait soigné sa voisine a remarqué quelques anomalies sur son corps. Elle est vite allée consulter le médecin, qui lui a prescrit un remède, tout en la rassurant. Elle est allée chez le pharmacien, Elle est rentrée à la maison avec les médicaments que le docteur lui avait prescrits et elle s'aperçoit que c'était les mêmes médicaments qu'elle donnait à sa voisine qui malheureusement est décédée suite à sa maladie. Alors ça a commencé à trotter dans sa tête. Elle s'est dit, ça y est, on me cache la vérité, moi aussi j'ai un cancer. Et malheureusement, son angoisse avec les jours a grandi de plus en plus. Et un jour, profitant que son mari était au travail, que ses enfants étaient à l'école, elle a écrit une lettre dans laquelle elle a terminé par ces paroles « Pardonne-moi, chérie, élève bien nos enfants, adieu. » Et quand le papa est entré dans la maison, il n'a pas trouvé sa femme, il a trouvé la lettre. Alors bien sûr, on a fait des recherches, puisqu'elle était « disparue » entre guillemets, et on a retrouvé son corps dans la Seine. Bien sûr, il y a eu une autopsie, et le médecin légiste, dans son rapport, a ajouté cette précision, cette femme ne présentait aucune cellule cancéreuse. Voilà où l'angoisse a amené cette femme. Voilà où l'angoisse, la dépression peut malheureusement amener l'être humain dans un acte de désespoir, plongeant la famille, ses proches, dans une grande souffrance. Permettez-moi de parler d'un passage biblique où il est question de deux apôtres qui, pour avoir osé prêcher l'Évangile, se sont retrouvés en prison. L'apôtre Paul, lui-même, était un de ces deux-là, et au lieu de se lamenter, ses disciples du Christ, alors qu'ils avaient été jetés, c'est le terme employé dans l'Écriture, en prison, eh bien, ils ont chanté des cantiques. Ils ont exprimé leur amour pour Dieu. Ils ont exprimé leur adoration. Et à un moment donné, il s'est passé un événement aussi soudain qu'inattendu, un tremblement de terre. Les portes de la prison, des cellules se sont ouvertes. Et le geôlier a pris conscience que tous les prisonniers avaient certainement fait la belle. Et il prit une épée pour se suicider, il allait se jeter dessus. Et à l'instant qui allait être fatidique, l'apôtre Paul de lui dire « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Aucun prisonnier ne s'est échappé. Il savait, lui, en tant que geôlier, que selon la loi romaine, si les prisonniers s'échappaient, ils subiraient l'humiliation d'un tribunal et aussi, malheureusement, l'exécution. C'était la loi romaine. J'aimerais souligner que cet homme, il nous est dit dans l'Écriture, le geôlier, lorsqu'il vit les portes ouvertes, tira son épée et allait se tuer, pensant que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Pensant que tous les prisonniers s'étaient enfuis. En fait, comme cette femme dont je viens de parler il y a quelques instants, le geôlier, lui aussi, pensait faux. Cette femme pensait qu'elle avait un cancer, alors que ce n'était pas le cas. Ce geôlier pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Malheureusement, cette femme est allée jusqu'à l'acte fatal, mais le geôlier, Dieu lui a fait grâce, et l'Écriture nous enseigne comment le Seigneur a agi dans sa vie et dans sa famille. Nos pensées sont très importantes. Nos pensées sont capitales. Et je lis, par exemple, j'ai lu dans un ouvrage du docteur David Burns, qui a pour titre « Se sentir bien », le docteur David Burns affirme que la plupart des dépressions, pas toutes, mais la plupart, viennent de ce que l'on pense faux. Ces expériences prouvent qu'on guérit mieux la dépression en dirigeant les pensées du malade qu'en lui administrant une quantité de tranquillisants. Je précise. Toutes les dépressions n'ont pas pour cause le fait de penser faux. Toutes les angoisses n'ont pas pour cause le fait de penser faux. Mais malheureusement, il semble, d'après la médecine, que c'est assez souvent le cas. La Bible nous parle d'un homme du nom de Jérémie, qui a vécu il y a quelques 25 siècles, et qui a connu un temps de détresse, de souffrance. Il emploie même le mot « misère ». Et il a écrit ceci, « Quand je pense à ma détresse », c'est au niveau des pensées, « quand je pense à ma détresse, quand mon âme s'en souvient, je la sens défaillir. Vous avez là un homme qui déprime. Un homme qui semble être au bout du rouleau. Il n'en peut plus. Quand je pense à ma détresse, eh bien, quand mon âme s'en souvient, elle défaillit. Il déprime. Et il ajoute, voici la pensée, on rejoint le mot pensée. Voici la pensée dont je veux nourrir mon cœur, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et il ajoute que la bonté de Dieu, que la fidélité de Dieu est grande. Amen. Et j'aime cette traduction qui précise que la bonté de Dieu a les dimensions du ciel. Vous avez déjà mesuré le ciel ? La bonté de Dieu a les dimensions du ciel. Et ami, qui que vous soyez, quel que soit votre problème, quel que soit votre besoin, parce que vous êtes la créature de Dieu, la bonté de Dieu, pour vous, a les dimensions du ciel. Et elle peut se manifester dans votre vie, comme elle s'est manifestée dans la vie du prophète Jérémie. Comme elle s'est manifestée dans la vie de bien des hommes dont nous parle la Bible, qui ont expérimenté la grâce de Dieu dans leur vie. Quand l'angoisse devient une maladie. Ce fut le titre d'un article paru dans la presse. Et selon France Info, 90% des jeunes se disent inquiets pour leur avenir. Remarquez, il y a de quoi, quand on considère le monde dans lequel nous vivons. L'angoisse du chômage vient en tête. D'autres ont peur de perdre leur emploi, l'abandon du conjoint, peur de la solitude, de l'échec, du lendemain, de la maladie et de la mort. Les causes de la peur, de l'angoisse sont multiples. Il y a bien des raisons, toutes différentes. Mais le problème de l'angoisse peut tenailler le cœur de l'être humain et le rendre malheureux, jusqu'à malheureusement quelquefois aller jusqu'au l'acte final est fatal. L'angoisse n'est pas d'hier. L'angoisse, c'est quelque chose qui vous étreint. La gorge serrée, l'estomac serré, comme un nœud. Ma mère, qui était chrétienne, puisqu'elle est au ciel depuis quelques années, partie à 93 ans, ma mère, à un moment donné, a ressenti quelques douleurs. Et elle s'est dit, ça y est, j'ai un cancer. Alors, il y a eu des examens, visites, mais non, il n'y avait pas de cancer. Mais elle s'était laissée malheureusement persuader qu'elle avait un cancer. Alors à partir de là, l'appétit coupé. Elle s'est mise à maigrir. Vous voyez déjà un cancer, je maigris. Etc. Alors, à l'époque, j'étais encore à la maison. Enfin, plus à la maison, mais j'y allais assez souvent. Quand j'étais là, je mettais avec notre tourne-disque des 33 vinyles avec des cantiques pour l'encourager, pour l'exhorter, pour qu'elle puisse se souvenir de la bonté de Dieu. Et je me souviendrai toujours de ce mercredi après-midi à 15h. J'étais avec mon père et mon frère et il vient nous voir et il nous dit « C'est fini ». On lui dit « Mais qu'est-ce qui est fini ?» Ma dépression. D'un seul coup, elle a repris du poids. Le Seigneur lui a fait grâce. Elle est allée jusqu'à 93 ans. Les pensées. Nous sommes invités dans la parole de Dieu à veiller à nos pensées. Parce que l'ennemi de nos âmes essaie de nous atteindre au niveau de nos pensées parce qu'il sait qu'à partir de là, il peut aller plus loin et nous jeter dans une véritable tourmente. La Bible dit quelque part que l'homme est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. David que les croyants connaissent par les récits bibliques, dont le fameux combat contre le géant Goliath est même connu en dehors des croyants, dans le monde, puisque quelquefois on entend les journalistes le dire, quand il y a de forces en opposition, c'est le pot de terre contre le pot de fer, ou c'est David contre Goliath. J'ai déjà entendu cela en écoutant les infos. David a connu aussi des moments particulièrement difficiles. Il a quand même perdu 3 de ses fils tragiquement, dont un qui était bébé. Et David écrira dans un moment d'épreuve, « J'ai le visage, l'âme, le corps usé par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Je suis comme un vase brisé. Et David, qui était croyant, qui croyait dans le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, David ne s'est pas résigné. Certes, il a connu des moments difficiles, mais il s'est accroché, il n'a pas baissé les bras. Au contraire, il a relevé la tête, il a levé les yeux vers le ciel, et il a invoqué l'Éternel. Et il dira dans sa prière, « L'Éternel entend la voix de mes larmes. » Les larmes, on les voit couler. Vous avez déjà entendu des larmes ? Elles sont silencieuses. Mais les larmes qui coulent expriment une souffrance intérieure. Et si nous ne pouvons que voir les larmes et ne pas entendre le message qu'elles expriment, lui, Dieu du haut de son ciel, entend la voix des larmes. Il entend, il comprend le message qu'elles expriment en coulant sur le visage. Et David était convaincu de cela, que Dieu n'est pas indifférent à la souffrance de l'être humain. La Bible dit que Dieu suit de son regard ceux qui sont dans la peine, dans la souffrance, afin de prendre en main leur cause. Encore faut-il que nous acceptions de remettre notre cause entre les mains du Seigneur. L'Éternel entend la voix de mes larmes. Dans sa détresse, il crie à Dieu en disant, « Seigneur, tu sais les angoisses de mon âme. Oui, il nous connaît, il connaît parfaitement tout ce qui nous concerne. Aie pitié de moi, car je suis dans la détresse. Sauve-moi par ta grâce. » Dans l'épreuve, réclamant la grâce de Dieu, réclamant le secours de Dieu, David ne met pas en avant certains mérites de sa part. David ne met pas en avant certaines de ses œuvres. David ne met pas en avant ce qu'il a pu faire en faveur du prochain dans la détresse, mais il dit « Sauve-moi par ta grâce ». Qu'est-ce que la grâce ? Le sens même du mot, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Une faveur qu'on ne mérite pas. Vous savez, si vous voulez vous approcher de Dieu, en mettant en avant certaines de vos œuvres, certains de vos mérites, vous ne recevrez rien. Oui, nous méritons quelque chose. La perdition. Parce que nous avons tous péché contre Dieu. Mais Dieu prend plaisir à faire grâce. C'est le Dieu de grâce. À partir du moment où nous acceptons de reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous ne méritons rien, mais que nous implorons sa grâce, comme David l'a fait, eh bien Dieu entend cette prière. Et dans sa bonté, il exauce. C'est la prière de l'homme qui, dans la tourmente, refuse de sombrer dans le désespoir, mais il continue d'espérer en Dieu malgré tout. Et il écrira plus tard, « Je mets en toi mon espérance, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. » Et il affirme, « Je, car l'Éternel fera sortir mes pieds du filet. » Il est conscient d'être pris comme dans un filet, comme l'oiseau qui est pris dans un filet, mais il invoque Dieu avec foi, c'est le langage de la foi. « Il, l'Éternel, fera sortir mes pieds du filet. » Et il ajoute, écoutez-le, « Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. » Il ajoute, « Seigneur, mon Dieu, je t'ai appelé à l'aide et tu m'as fait revivre. Seigneur, ta bonté atteint jusqu'aux cieux. » Oui, la bonté de Dieu a les dimensions du ciel. Alléluia. La bonté de Dieu n'est pas seulement pour les autres, elle est aussi pour vous. Et quelle que soit votre peine, quelle que soit votre souffrance, peut-être votre angoisse, votre dépression, votre crainte, que sais-je encore, quel que soit votre problème, le Seigneur est la solution. Non pas une religion, non pas des traditions, non pas des choses que l'on essaie de faire pour s'attirer la faveur de Dieu. Non, nous ne pouvons pas, par nos œuvres et nos mérites, nous attirer la faveur de Dieu. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La foi, c'est la main de l'âme qui s'empare de la grâce de Dieu, de cette faveur qu'on ne mérite pas. Ce n'est point par les œuvres, dit l'Écriture, afin que personne ne se glorifie. La trame du message de l'Évangile, c'est l'amour de Dieu. Il y a dans la Bible trois définitions de Dieu. Dieu est esprit. Dieu est lumière. Dieu est amour. Il y en a d'autres. Dieu est saint, Dieu est juste, etc. Mais il y a ces trois-là. qui sont particulièrement soulignés dans la parole de Dieu. Dieu est esprit. On ne peut pas se représenter Dieu. Pourquoi ? Nous n'avons pas d'idole, nous n'avons pas de statuette. D'ailleurs, c'est une transgression. Deuxième des 10 commandements, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle. Et puis sur la croix, le Christ, il n'y est pas resté, il a été mis au tombeau, et puis il est glorieusement ressuscité, amen, il est toujours vivant. Dieu est esprit, Dieu est lumière. Il nous a donné une conscience, que la Bible appelle quelque part la lampe de l'Éternel, pour éclairer les coins et les recoins de notre cœur. Ça vous est jamais arrivé que votre conscience vous parle ? Ça ne vous est jamais arrivé que votre conscience vous reproche quelque chose ? Ça ne vous est jamais arrivé que votre conscience vous mette mal à l'aise ? Parce que vous avez fait quelque chose de mal, pas seulement vous, mais nous aussi. Hein. Par le moyen de notre conscience, Dieu veut nous parler. David avait malheureusement transgressé la parole de Dieu. Il avait fauté, il avait péché contre Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, l'a secouru. J'aimerais vous parler d'un fait que j'ai bien connu un jour, alors que nous avions une réunion, c'était le vendredi après-midi. Une dame est arrivée, c'est la première qui est arrivée. Elle vient vers moi, elle me dit, est-ce que c'est vous le pasteur ? Je dis oui. Elle m'a dit, il faut que vous m'aidiez, sinon je me jette à la Seine. Alors j'ai changé quelques paroles, elle est restée à la réunion, et après je lui ai dit, si vous souhaitez une visite, je peux venir vous voir avec mon épouse. Elle a accepté. Sans lui poser de questions, cette femme qui était dans une profonde dépression depuis déjà bien longtemps, nous a exposé un peu sa situation. J'ai, dit-elle, eu une éducation religieuse. Et ce que je vis est la cause principale de ma dépression. Elle nous a expliqué ce qu'elle vivait. Elle avait un amant. De plus, son mari, qui était au courant, avait une maîtresse. Et ils étaient d'accord tous les deux pour que leur dernière fille, quand elle serait élevée, de se séparer. Alors, nous avons écouté cette dame et je lui ai dit, écoutez madame, je vais être vrai avec vous, je vais être direct. Si vous voulez que Dieu vous aide et vous délivre de votre dépression, il faut commencer par rompre avec le péché, avec votre amant. Elle dit, vous savez, ça va être difficile, parce que ça fait des années. Mais écoutez, si vous le voulez, Dieu vous aidera. Dieu ne vous demande pas si vous pouvez, mais si vous le voulez. L'évangile, Jésus a posé à un malade la question, veux-tu être guéri ? Il lui a pas dit, peux-tu, mais veux-tu ? Même si on se sent comme pris dans un filet, ne pouvant pas s'en sortir soi-même, si nous voulons changer, le Seigneur vient à notre secours. Alors, nous sommes partis après avoir prié avec elle, et puis, à un moment donné, quelques jours après, elle nous téléphone, elle me dit, priez pour moi, il est à la porte, il insiste. Alors nous avons prié pour elle, par la grâce de Dieu, elle a tenu bon. L'amant a fini par se fatiguer et partir ailleurs. Elle a donné sa vie au Seigneur Jésus. Le Seigneur l'a guérie de sa dépression. Elle s'est engagée avec le Seigneur. Son mari a rompu avec sa maîtresse. Et le foyer est toujours solide dans la foi. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, il peut y avoir quelquefois un problème moral et spirituel qui soit aussi, comme c'était le cas pour cette dame, c'est pas forcément le cas pour tous, mais il peut y avoir aussi un problème moral et spirituel que la Bible appelle le péché. Oh, lisez le journal demain, vous ne verrez pas le mot péché. Même du langage religieux, le mot péché disparaît de plus en plus. Mais que le mot disparaisse, c'est une chose, il n'a jamais disparu de la Bible, mais nous constatons qu'il ne disparaît pas du monde, de la vie de tous, car nous sommes tous des pécheurs. Un jour, une maman avec son bébé, a eu un petit problème, c'est que le bébé s'est mis à hurler. Et qu'est-ce qui se passe ? Il a faim. Elle a fait chauffer le biberon, elle lui a donné le biberon, il a rejeté le biberon et il hurlait toujours. Qu'est-ce qui se passe ? Le lait est trop chaud ? Elle a regardé. Non, il n'est pas trop chaud. Qu'est-ce qui se passe ?
Et il a découvert l'origine du petit drame. Il y avait une épingle mal placée. Il a suffi d'ôter l'épingle pour que le calme revienne dans la vie de cet enfant. Il peut y avoir, ami, une épingle dans votre vie, que la Bible appelle le péché. Dieu vous aime, Dieu nous aime, nous pécheurs, mais il déteste le péché, quelle qu'en soit la forme, c'est notre ennemi numéro un. Alors si, honnêtement, du fond de votre cœur, vous demandez pardon à Dieu, comme cette femme dont j'ai parlé tout à l'heure l'a fait, en demandant sa grâce pour tenir bon, si vous acceptez d'ôter l'épingle, permettez-moi cette image, de votre vie, je vous assure, je vous promets, parce que Dieu est fidèle à sa parole, qui est la vérité, le Seigneur vous fera grâce. Il est la réponse, il est la solution. Et ce n'est pas sans raison que le Christ est mort sur une croix. Il n'a pas été victime d'un complot. Il n'a pas été surpris par les événements. La mort du Christ a été programmée dans l'éternité avant même la création du monde. Dieu, dans sa prescience, savait comment les choses allaient se passer, mais Dieu a laissé à l'être humain la liberté de choisir. Malheureusement, l'être humain trop souvent choisit le mal au-delà du bien. Mais déjà dans l'éternité, avant la fondation du monde, Dieu avait prédestiné son Fils à être la victime expiatoire pour nos péchés, et son sang répandu sur la croix, son sang innocent parce que lui, infaillible, irréprochable sur toute la ligne, a pu faire par son sang l'expiation de nos péchés. Nos péchés, voilà notre ennemi numéro un. Alors il y a deux solutions. Ou bien nous acceptons de venir au fond de notre cœur, pas besoin d'aller à Jérusalem ou ailleurs, mais là où nous sommes, sur notre chaise ou peut-être même à la maison, nous acceptons honnêtement de reconnaître nos fautes, de les avouer, de les abandonner, de les avouer à Dieu, parce qu'aucun homme, fût-il prêtre ou pasteur, n'a le pouvoir de pardonner les péchés, mais Dieu seul. À partir du moment où honnêtement nous avouons nos fautes à Dieu, que nous demandons au Seigneur le secours pour ne pas continuer, parce que ce qu'on fait c'est pour continuer, c'est pas la peine. Le Seigneur fait grâce. Il nous fait cette faveur de nous pardonner. Il nous fait cette faveur de nous purifier par son sang précieux. Il nous fait cette faveur de nous adopter comme ses enfants et d'inscrire notre nom dans le livre de vie. Et un jour, quand nous fermerons les yeux à cette terre, il nous fera la faveur de nous ouvrir son ciel pour nous recueillir dans sa gloire pour l'éternité. Croyez-moi, amis, vous avez tout à gagner à venir au Seigneur avec un cœur honnête et vrai, à lui confesser vos fautes, à les abandonner, et vous avez tout à perdre. Non seulement pour ce temps, mais pour l'éternité, de ne faire fi de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'a pas seulement été déclaré, l'amour de Dieu a été démontré. L'amour de Dieu a été prouvé. La Bible dit, celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son amour. Personne ne peut avoir un amour plus grand. Alors, si c'est le cas de quelqu'un ou de plusieurs, ne vous enfermez pas dans votre angoisse. Ne vous enfermez pas dans votre dépression. Ne vous enfermez pas dans toutes sortes de frustrations, de découragements. Ne vous enfermez pas dans le péché, mais tournez vos regards vers le Seigneur. Nous l'avons dit en commençant, quand Jésus a lu ce texte du prophète Ésaïe dans la synagogue à Nazareth, il est dit ceci, « Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, Jésus. » Fixez vos regards sur lui. Fixez vos regards sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du calvaire, là où il a payé notre dette envers Dieu, là où il a souffert une souffrance indescriptible, là où il a porté nos péchés, là où il a porté le châtiment, la sanction divine. Quand un enfant fait le mal, il est sanctionné, oui ou non? Qu'est-ce que vous faites, vous, parents? Eh oui, sinon, il va prendre une mauvaise direction. Dieu se doit, parce qu'il est saint, dans l'absolu, parce qu'il est juste d'une façon parfaite, il se doit de sanctionner le péché qui est une offense à sa sainteté, un outrage à sa dignité. divine et éternelle. Jésus a subi la sanction, de telle sorte que si on se réfugie en lui... Vous savez, c'est un peu comme le paratonnerre. Paratonnerre, quand vous êtes à l'abri d'un paratonnerre, vous ne craignez pas l'orage, ni la foudre. Eh bien, Jésus, c'est le paratonnerre divin qui a subi les foudres de la colère divine à cause de nos péchés dont il s'est chargé. Et quand on se réfugie en lui, alors nous sommes à l'abri, nous sommes sauvés. Suivre Jésus, fixer nos regards sur lui, nous attacher à lui, croyez-moi, c'est la plus belle de toutes les vies. Ça fait 58 ans que je fixe mes regards sur le Christ, que j'ai à cœur avec sa grâce de le suivre, et croyez-moi, je suis heureux, heureux comme un poisson dans l'eau. Vous connaissez l'expression ? Si tu veux le bonheur, on chantait quelquefois le vrai, hein ? Pas le bonheur qui dure quelques jours ou quelques heures, mais si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Accepte-le comme ton sauveur. Reçois sa grâce par la foi. Fais-lui confiance quotidiennement. C'est vraiment la plus belle de toutes les vies. Et mieux encore, la plus belle de toutes les destinées nous est rêvée dans le ciel. Voulez-vous être avec nous dans le paradis de Dieu ? Non pas qu'on se croit meilleur que les autres, mais on a osé croire dans la grâce de Dieu. On a osé lui faire confiance et de nous engager à le suivre. Suivez-le de tout votre cœur. Voulez-vous faire, comme David, cette prière qu'il a fait un jour, « Ô Éternel, guéris mon âme !»